Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je suppose que vous avez déjà entendu le terme slasher, slasheuse. Eh bien, notre invitée du jour, qui est Laura Hanoun, du compte Instagram et du site Les Paris de Laura, est ce qu'on appelle une slasheuse. C'est une entrepreneure qui cumule plusieurs activités. Je l'ai rencontrée il y a quelques années sur Instagram, où elle était déjà blogueuse, community manager pour quelques cafés de Paris et photographe culinaire. En 2020, elle a rajouté une casquette à tout ça, qui est celle de restauratrice. Et j'ai trouvé son parcours très ambitieux et très inspirant. J'ai toujours été très fan de son travail, ça se voit que c'est une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait et elle transmet beaucoup de motivation et de bonne humeur. C'est dans sa personnalité, elle est une personne rayonnante tout simplement. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir qui est Laura, vous allez découvrir son parcours et comment elle a découvert le freelancing, ses débuts dans la photographie notamment culinaire, sa découverte et son amour pour tout ce qui est brunch et coffee shop et... Eh bien, l'histoire de son café Immersion qui a été ouvert en 2020 pendant une pandémie et qu'elle essaye de développer avec beaucoup d'énergie, de passion et d'ambition. Salut Laura, bienvenue dans Build Yourself. Je suis très contente de t'accueillir enfin. On en parlait depuis longtemps.
Merci beaucoup Safia de me recevoir dans ton fameux podcast que je suis depuis un petit moment maintenant.
Ça me fait plaisir. Mais tu sais quoi, on va commencer par parler un peu de toi et de ton parcours pour qu'on sache un peu d'où tu viens et ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant. Tu veux du coup que je reparte de la fin de mes études ?
Ouais.
On va dire que j'ai... Parce qu'avant mes études, j'ai un parcours vraiment, on va dire, classique. J'ai fait la fac, j'ai fait une licence d'économie et gestion. Enfin voilà, quelque chose de très classique. Et en fait, on va dire que tout a basculé pendant mon année de césure entre mon M1 et mon M2.
Ouais.
Donc, en fait, comme j'ai pas pu faire d'Erasmus, je me suis dit, je vais profiter de cette année de césure pour potentiellement partir un peu à l'étranger. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire 6 mois de stage à Paris, histoire d'avoir un nom sur mon CV, comme on disait autrefois. et 6 mois, un peu plus voilà, de vadrouille, moins le nom, mais plus l'expérience. Et du coup, en fait, j'ai réussi à trouver un stage en Australie. Donc, quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle disait, là, tu veux pas réfléchir? Non, c'est bon, c'est signé. La convention de stage, elle est signée. Elle fait, ah, bon, bah, très bien. Bon, bah, c'est parti. Et en fait, en Australie, j'ai envie de te dire, j'ai découvert la vie. Parce que c'était, ouais. Ça n'avait rien à voir avec la vie que je menais à Paris. Déjà, j'ai découvert ce que c'était le freelance. C'est-à-dire que je ne connaissais D'accord. pas du tout, pour moi, un job, c'est un CDI, tu fais 8h30, 19h, voilà, c'est ça le travail, quoi.
Ouais.
Et j'avais rencontré, en fait, une fille pendant mon stage, donc on s'était rencontrés sur un tournage, et puis je ne comprenais pas, puisqu'elle me disait, ah, j'ai signé un nouveau client, ah, j'ai un nouveau client, et je ne comprends pas, je fais, enfin, à quoi elle ressemble tes journées, comment tu peux avoir 4 jobs en même temps, c'est pas possible, en fait. Alors qu'en fait, c'était des missions freelance comme on en a aujourd'hui.
Ouais.
Et du coup, déjà, voilà, première réalité, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, deuxième chose, donc elle faisait du CM, de la photographie culinaire, et elle avait également un attrait pour les coffee shops, le brunch. Et toutes les semaines, elle me proposait en fait, de venir avec elle. Enfin, Laura, j'ai telle adresse qui a ouvert, est-ce que ça te dirait de venir tester avec moi? Alors moi, tu as dit qu'il faut manger, pas de problème, avec plaisir. Et du coup, elle m'amenait un petit peu partout à Melbourne pour aller découvrir ses coffees. Et c'était vraiment le monde inversé, quoi. C'était moi qui attendais, elle prenait les plats, elle allait près des sources de lumière, elle revenait, on mangeait froid. Enfin voilà, ouais. C'était... Puis moi, j'étais là avec mon téléphone, je prenais une petite photo. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc j'ai découvert le freelance, j'ai découvert l'univers des coffee shops et... Ouais. Par la même occasion, j'ai découvert tout ce qui était cuisine gourmande, mais saine à la fois. C'est le début un peu de la cuisine végétarienne, la cuisine végane, la cuisine sans gluten, enfin tout ça. Et à Paris, il y a, il y a 5 ans, j'ai envie de te dire, c'était vraiment une petite minorité qui connaissait ça. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Mon premier avocado toast, je l'ai mangé en Australie. Hein. L'avocat, je ne connaissais pas.
C'est fou, hein, que ce voyage...
Pour moi, c'était, tu sais... C'est l'avocat, c'est dans ta famille où tu la manges à la cuillère avec de l'huile d'olive. Voilà, et ça me tentait pas du tout, quoi. Je voyais ce truc vert, je suis là, non, c'est bon, je vous le laisse. Donc vraiment, j'ai découvert là-bas. Et du coup, à la fin de ce stage de 6 mois, en fait, je me suis dit, c'est trop bien ces adresses-là, je veux trouver la même chose à Paris. Et du coup, bah, j'ai commencé à chercher les petites adresses, sauf que pareil... Il y a 4 ans, c'est-à-dire, il n'y avait pas autant de cafés et ce n'était pas aussi simple à trouver surtout. Parce que tout le monde n'était pas sur Instagram, parce qu'il n'y avait pas des blogs, tu n'avais pas des food bloggers à tous les coins de rue. Donc les seuls que tu trouves, Season, Fragment, Obladi, voilà.
Ouais, la base quoi.
Une espèce de. La base.
Et c'est comme ça que tu as découvert la photographie culinaire du coup ?
Bah, on peut dire ça. Je prenais au début les photos vraiment avec mon téléphone. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à tester un petit peu ces adresses, mais c'était vraiment plus pour tester pour moi. Il n'y avait aucune optique de blog, aucune optique professionnelle, enfin encore moins professionnelle ou encore moins monétaire, j'ai envie de te dire. Donc c'était vraiment juste, voilà, je vais manger un avocado toast avec mes copines, c'est trop cool. Je suis trop contente de retrouver un peu de Melbourne à Paris, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à publier un petit peu sur Instagram. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage, Instagram, plus tu publies, en fait, et plus les photos, elles se perdent sur le feed.
Ouais.
Tu sais, au bout d'un moment, tu cherches une adresse, tu ne vas pas remonter pendant un quart d'heure, 20 minutes, le feed de quelqu'un pour trouver une adresse. Je me suis dit, il me faut un blog. Il me faut un blog avec une carte où, en fait, tu peux... en fait, je voulais faire une manière inversée plutôt que de d'abord trouver une adresse et regarder ensuite où elle est. Je voulais d'abord que tu te géolocalises.
Ouais.
Et que tu regardes ce qu'il y a autour de toi.
Ok.
Parce que c'est parfois tu trouves une adresse et en fait elle est à l'autre bout de Paris et c'est chiant quoi. Tu dis bon bah j'irai jamais. Alors que là l'idée c'est vraiment où suis-je dans Paris ? Qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Qu'est-ce que je peux tester sous peu quoi ? La semaine prochaine, demain ? Qu'est-ce que j'ai dans mon quartier ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc du coup je voulais en fait cette carte. Donc au début je voulais la carte Mapster.
Ouais.
Donc qu'on connaît aujourd'hui. Mais pareil, il y a 4 ans, Mapster c'était plus petit, c'était plus intimiste. Mais ils ont pas voulu bosser avec moi au début.
Ouais.
Ils m'ont dit que j'étais trop petite. Du coup j'étais un peu blessée dans mon ego.
Ça a bien changé depuis.
Donc j'ai fait une carte Google que j'ai intégrée sur mon blog. Enfin voilà, Micmac. Et j'ai commencé comme ça. Et après, les tests d'adresse, je suis passée à un petit appareil photo numérique. Après, j'ai eu mon ex qui avait un réflexe. Donc, j'ai emprunté son appareil photo. C'est lui qui m'a appris à m'en servir, à commencer à toucher un petit peu à Lightroom. Enfin, donc voilà, progressivement, mais sans pression. Hein. Franchement, à ce moment-là, du coup, j'étais en plein dans mon M2.
Ouais.
Donc, j'étais en alternance en plus. Donc, tu vois, je bossais la semaine et c'était vraiment sur mes week-ends où je courais à droite, à gauche pour aller tester... pour aller tester tout ça. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai atteint, on va dire, le cap des 10 000 abonnés. Et j'ai eu mes premières propositions de clients CM.
D'accord, c'est venu à ce moment-là.
Donc, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter. Je vais faire ma demande d'auto-entreprise. Et puis, je vois si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je cherchais du taf, en fait, en parallèle. Comme ça, je me suis dit, je verrais bien... comment ça se passe. Et puis, tu sais, j'avais mes parents derrière qui étaient là en mode, c'est tous les jours, tu cherches du travail, hein, tu cherches du travail. J'étais là, j'ai mon petit client, c'est quand même bien, 300 euros par mois, c'est correct. et en fait, du coup, un jour, j'ai eu une fameuse offre d'emploi. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie. J'ai trop envie de... J'adore aller tester les adresses, j'adore développer mon compte Instagram, j'adore mon blog, j'adore me rendre à des événements. Tu sais, au début, t'es invité à plein de petits événements pour des marques et tout, tu rencontres plein de monde. Et j'aimais trop cette nouvelle vie pour me dire, en fait, je vais m'enfermer dans un bureau. Et je savais qu'au fond de moi, j'allais le regretter, que j'allais être frustrée. Et du coup, j'ai refusé l'offre d'emploi et je me suis dit, je me lance à fond dans cette aventure et on verra bien où ça m'amène. Et écoute, pour l'instant, ça continue. Donc,
ça marche plutôt pas mal, effectivement.
Donc, ça marche plutôt bien. Donc, aujourd'hui, je suis CM et photographe pour des cafés. Je suis blogueuse, influenceuse, créatrice de contenu pour mes propres comptes. Et à côté, j'ai ouvert mon coffee shop Immersion il y a 6 mois maintenant.
Donc, tu es la personne la plus multicasquette que je connaisse, pour tout te dire.
Ça va?
Et je me demande comment tu fais pour gérer tout ça. Moi, je fais un truc, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de rien. Mais comment tu fais, toi, pour gérer autant d'activités?
Quand on voit ton compte Pinterest, je peux te dire que ça me fait la même impression. Hein. Je me dis, mais comment elle fait avec toutes ses épingles et ses visuels dans tous les sens et tout. Je pense que, en fait, de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est une montagne. Et finalement, quand tu commences à te mettre dedans, tu comprends un peu les rouages et comment ça fonctionne. Mais bon, c'est du taf. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, il y a du travail derrière.
Entre-temps, tu as créé le compte Instabrunch Paris. Et yes. C'était quoi ta motivation derrière, du coup, puisque finalement, tu partageais déjà des brunchs sur ton compte Les Paris de Laura. Donc, c'était quoi la motivation pour créer ce compte à part?
Alors, Instabrunch, effectivement, il fallait suivre les débuts pour connaître l'histoire qu'il y avait autour. Instabrunch, à la base, c'est des meet-up.
D'accord.
C'est des rencontres entre passionnés de brunch. En gros, le tout premier, je me souviens, on payait notre brunch et j'avais réussi à négocier une petite bouteille de jus offerte pour chaque participant à la fin du brunch. Voilà, c'était un peu la consécration. J'étais là, ouais, trop bien et tout. On était 6. Ouais. J'ai gardé contact avec 3. Tu vois, sur la moitié, j'ai gardé contact et l'autre moitié, pas. Et j'ai réussi quand même à organiser 23 Instabrunch. Donc, en moyenne, entre 10 et 15 personnes. 15, c'était vraiment beaucoup. Et du coup, en fait, le but, c'était tous les mois, il y a une rencontre avec mes abonnés dans un brunch qui vient d'ouvrir. Donc, c'était dur parce qu'il fallait à la fois trouver un nouveau lieu, trouver un lieu qui puisse accueillir un groupe, qui puisse... Donc, généralement, j'arrivais quand même à nous faire réserver un dimanche midi, à nous privatiser des lieux, à... Et il fallait également que ce soit assez bon et original et copieux, joli. Enfin voilà, tout le côté instagrammable et gourmand de ton brunch. Donc au final, les deux réunis, c'était pas si évident à trouver. Mais ouais, ça a bien marché. Et puis surtout, enfin, là où je suis contente, c'est que de chaque édition, c'était les éditions des Instabrunch, les gens sont restés en contact.
Ah oui, t'as vraiment créé
C'est incroyable parce que franchement, moi à la fin, les premiers Instabrunch, j'y gardais beaucoup contact avec les personnes. Puis au bout d'un moment, en fait, tu peux plus quoi. Ça faisait beaucoup de personnes à rencontrer. Mais par contre, à chaque édition, je voyais que les personnes elles restaient en contact, elles continuaient à échanger, elles continuaient d'aller bruncher ensemble. Et là, c'est là où tu te dis quand même la beauté des réseaux sociaux en un déjeuner. Tu le voyais direct, hein, tu voyais les gens qui avaient des points en commun. Tu fais un tour de table un peu sur qui fait quoi dans la vie, qui aime quoi, et puis après tu parles tout simplement. Et tout de suite, t'avais des affinités qui se créaient, donc c'était assez drôle. Mais surtout, ce que j'aimais beaucoup avec ces Instabrunch, c'est que c'était des moments vrais. C'est-à-dire que tu vois, je faisais des photos au moment où les plats arrivaient, mais pendant le brunch, les téléphones étaient posés. Et c'était juste un moment entre les personnes qui étaient là. J'étais obligée de communiquer un petit peu. Parce que quand t'as un événement pour donner envie, pour montrer que c'est pas glauque, pour montrer que les gens ont quand même l'air sympas. Parce que tu sais, quand tu te retrouves dans un groupe de 10 personnes et que tu connais personne...
Ouais, c'est pas facile.
Ça peut être impressionnant. Pour moi, qui parfois devait animer des groupes de 10-15 personnes, je peux te dire que j'étais pas toujours bien, tu vois, c'est les gens, ils te regardent droit dans les yeux et toi, t'es là en mode, il faut être sympa, il faut être drôle et tout. Donc, c'était un peu stressant par moment, mais franchement, ça s'est toujours très bien passé. Donc, voilà, un petit moment de communication avec quelques stories, quelques photos et après, juste des moments partagés avec des abonnés et c'était vraiment des chouettes moments. Voilà. Après, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, le dimanche, je travaille. Le dimanche, c'est le jour du brunch. Donc, c'est difficile de dire à un resto, tu peux me privatiser pour un groupe de 10, ta plus grosse journée de la semaine.
C'est vrai.
Voilà, c'est un peu compliqué. Mais écoute, je me dis, j'aimerais bien un jour refaire quand même des brunchs. Ça me manque un petit peu.
quand on aura la possibilité, quand on sera libéré de prison, j'ai envie de dire.
C'est clair.
Mais alors, c'est moi, ça. La question que je voulais te poser, c'est comment est née, même si je m'en doute un peu, cette envie d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un coffee shop.
Bah, en fait, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement. C'est quand tu testes des cafés à tout va pendant 4 ans, naturellement, t'es obligé de dire à un moment à quoi il ressemblerait mon café. Tu sais, tu te dis, tiens, je prendrais bien la table de chez Fragment, parce qu'elle est jolie, elle est en bois, elle est ronde, c'est sympa, c'est pour les photos, pour l'ambiance. Par contre, je prendrais bien des pancakes de tel endroit, j'aurais bien fait ci, j'aurais bien fait ça. Et en fait, à force de tester, à force de voyager aussi, parce que tu vois, j'ai pas juste fait Paris, j'ai quand même, enfin, tu regardes ma carte Mapster aujourd'hui, t'as Amsterdam, t'as Madrid, t'as Londres, t'as le Japon, t'as l'Australie, t'as New York, t'as le Canada, enfin... Tu sais, commence à avoir des brins sur mon actif, quoi.
C'est clair.
Et du coup, bah voilà, t'as des envies qui naissent. Et puis, comme bien souvent dans l'univers du freelance, c'est les rencontres. J'ai rencontré, du coup, mon associé Alexis dans un café un jour par hasard. Et en échangeant, lui, il avait aussi envie d'ouvrir un restaurant. Et en fait, il me manquait ce qui lui manquait en moi également. Lui, c'est quelqu'un qui est très organisé, très rigoureux. Enfin, tu vois, toute la partie administrative, financière, ouais. Comptabilité, RH, tous les trucs que généralement, voilà, tous les trucs que généralement on déteste, lui, c'est son truc.
Ouais.
Et par contre, toute la partie communication, animation d'une communauté, photographie, influence, réseaux sociaux, lui, il déteste. Tu sais, il a le compte Instagram privé avec 20 abonnés, tu sais, le truc, les réseaux sociaux, non merci. Ou juste pour suivre, en tout cas, mais pas pour animer moi-même. Et du coup, bah, on était deux profils très complémentaires avec cette même envie de créer un lieu qui nous ressemble, où les gens vont venir manger quelque chose de gourmand, repartir avec le sourire, vivre une véritable expérience. Voilà, on avait cette envie en commun et du coup, on a décidé de lancer ça ensemble. Et ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on est très contents de ce qu'on a fait.
Alors, j'ai hâte d'aller y manger. J'y suis pas encore allée avec le confinement et tout.
Mais c'est un peu compliqué.
Ouais, c'est un peu compliqué. Mais je vois les photos, je vois sur YouTube le brunch et je me dis, mais c'est le brunch de Laura. Je veux trop l'écouter. En tout cas, ça donne très envie.
Tu te dis que sur les 6 mois d'ouverture, on a fait juin, juillet, août, septembre. On a fait la moitié, on va dire 3-4 mois ouverts et 2-3 mois en confinement, quoi.
Alors, quand t'as eu, je voulais te demander, quand t'as eu cette. Quand vous avez décidé d'ouvrir ce coffee shop, est-ce que toi, t'as eu des blocages mentaux, des petites choses, tu t'es dit, j'y arriverai pas, c'est un trop gros projet, ou tu vois, ce genre de choses. Ou t'étais direct dedans en mode, je vais le faire, c'est le projet de ma vie, je me lance, tu vois.
Bah, en fait, ce qui est plus dur pour moi par rapport à d'autres restaurateurs, c'est le fait d'être une personnalité publique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu ouvres un café, habituellement, les gens, je sais pas, ton café, il s'appelle Hortensia. Les gens, ils aiment pas ton café, ils vont dire « j'aime pas Hortensia ». Moi, ils vont dire quoi ? Ils vont dire « j'aime pas le café de Laura ». « J'aime pas la nourriture de Laura ». Et du coup, c'est vrai que moi, qui suis quelqu'un de très sensible... Tu vois, les abonnés peuvent le voir un peu parfois parce que je partage de temps en temps des retours clients négatifs ou des remarques qu'on a. Du coup, voilà, ce qui me faisait peur, moi, c'était de me prendre des remarques directes. Et je me disais, est-ce que je vais réussir à encaisser, en fait, les remarques négatives, surtout que, voilà, dans l'influence, on a la critique facile. Parce que forcément, c'est difficile de savoir le travail qu'il y a derrière un projet. Et du coup, c'est si simple de dire c'est pas assez généreux, c'est cher pour ce que c'est. Alors qu'on ne sait pas forcément derrière le loyer, les salaires, les emprunts. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il y a derrière. Donc, effectivement, ce sera toujours plus rentable de cuisiner chez soi. Mais, mais voilà, si on va au restaurant, c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière et il faut aussi comprendre toutes les charges qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà. Mais donc c'était plutôt cette partie se prendre les remarques directement sur moi. C'est plutôt cette partie-là qui me faisait peur. Surtout que pour ceux qui ont suivi un peu le projet, on avait quand même un focus sur l'avocat au début.
Oui, c'est vrai, je me souviens.
Mais en fait, le projet, quand on y pense, ça fait bien 2 ans et demi, tu vois, plus de 2 ans et demi maintenant qu'on était dessus. Et effectivement, il y a 2 ans et demi, bah, l'avocat, c'était au top de sa notoriété. Et en fait, j'ai vu le déclin arriver. Et tu vois, et en même temps qu'on travaillait dessus, et en même temps que je voyais ce déclin, je me disais, mais je vais m'en prendre mais plein la gueule. Ça va être terrible. Et c'est là où j'ai tiré la sonnette d'alarme. Et je me suis dit, mais en fait, les gars, on peut pas. Enfin... on peut plus faire ça, c'est fini. Ouais. Le projet, il évolue, il faut qu'on évolue avec le projet. On peut pas juste rester borné sur une idée qu'on a eue. Puis finalement, tu vois, en créant les recettes, on se rendait compte que ce qu'on avait envie, il y avait même pas d'avocat dedans. Tu vois, et limite, on se forçait à rajouter de l'avocat. C'est-à-dire, alors où est-ce qu'on peut en mettre pour que ce soit dans le thème? Ouais. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais ça sert à rien en fait. On a des envies qui collent plus avec notre idée de base. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de savoir s'adapter. Tu vois, au bout d'un moment, mais c'est comme ton compte Instagram. Si, imaginons, tu mets des photos de chaussures et puis un jour, tu mets un bijou et tu vois que le bijou, il cartonne, ben, peut-être qu'en fait, ta communauté, elle veut voir des bijoux. Et ben hop, fais des bijoux. Tu vois, faut pas rester bloqué sur une idée. Et du coup, on a juste suivi en fait, nos envies qui ont évolué avec le temps. Et c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Et voilà, on est super contents aujourd'hui du projet tel qu'il est. Il nous ressemble. On a plein de possibilités. Et c'est ça qui est important.
Comment vous avez choisi la carte? Je pense que ça devait être le meilleur moment puisque tu as dû goûter plein de recettes. Mais comment on fait le choix? Parce que bon, une carte, c'est limité forcément. Comment on sélectionne les plats? Est-ce qu'on pense aux gens, à ce qui est tendance en ce moment, à ce que nous, on aime? Tu vois comment? Parce qu'en fait, vous avez des... certains plats, en tout cas, que j'ai vu passer, genre une espèce d'omelette qui est un peu... En fait, j'ai l'impression que tu as pris des inspirations d'un peu partout parce que c'est différent de ce que j'ai vu dans d'autres coffee shops à Paris, tu vois. Et je trouve que votre force, elle est là.
Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais pareil, la création de la carte, ça a été un vrai taf. Hein. Franchement, on est passé par 3 chefs différents pour nous aider, ouais. Pour nous accompagner. Le premier, il n'avait pas du tout la même vision que nous.
Ouais.
En fait, il n'avait pas compris, je pense, l'ADN qu'on voulait. Il y avait une proposée des trucs avec des anchois et tout. On dit, non, non, non. Il y a quelque chose qui colle pas avec notre identité, ça va pas le faire. Et la deuxième chef, elle était déjà engagée sur un autre projet. Et du coup, en fait, elle avait pas le temps pour nous. Tu vois, on avait l'impression de déranger à chaque fois.
Ouais.
On avait fait un premier testing et en fait, on n'était pas convaincus parce qu'on avait fait l'erreur justement d'essayer de faire quelque chose d'original à tout prix en oubliant ce qu'on avait vraiment envie de faire à la base et ce pourquoi on avait envie d'ouvrir un restaurant. Et du coup, on a fait le testing et en fait, à la fin de ce testing, je me suis dit, mais en fait, est-ce que moi, j'ai envie d'aller manger dans ce restaurant? Et tu vois, la réponse, elle était mitigée. Et je me suis dit, est-ce que mes parents, ils vont avoir envie? Ben non, pas vraiment. Est-ce que mon frère? Est-ce que mes amis? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne dans mon entourage qui va avoir envie de manger cette carte. C'est quand même stupide. Enfin, tu vois, les gens me suivent sur Instagram parce qu'ils aiment ce que j'aime. Et si je fais une carte qui ne ressemble pas du tout à ce que je mange habituellement et à ce qu'ils aiment manger, en fait, on fait fausse route. Et il se trouve qu'on a fait ce testing quelques jours avant que je parte à New York avec Claudia, My Tasty Travel, que tu connais probablement. Et du coup, en fait, on est partis ensemble et Claudia aime également beaucoup les coffee shops, elle cuisine beaucoup, elle a beaucoup voyagé. Enfin, voilà, on a cette passion en commun, on va dire, sauf qu'elle cuisine mieux que moi. et en fait, dans l'avion, je lui ai dit, Claudia, je pense qu'on fait fausse route. Et il faut repartir à zéro et il faut faire une carte qui nous ressemble. Et enfin, qui me ressemble vraiment et qui a avec des plats que j'aime et que j'aurais envie de manger dans mon café. Et du coup, en fait, on a profité de ce voyage pour réfléchir ensemble, pour tester des adresses à New York. C'est là-bas qu'on a découvert d'ailleurs cette omelette. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, les choses les plus simples sont les meilleures. Enfin, quand tu veux manger un brunch, concrètement, tu veux du saumon, tu veux du fromage, tu veux des œufs, des basiques, en fait, tu les veux. Alors après, tu les déclines de manière différente, tu vois, l'omelette, on a rajouté de l'huile de truffe, on a rajouté le beaufort, on n'a pas juste repris la recette telle qu'on l'avait trouvée aux États-Unis, c'était pas le but de copier, c'était vraiment d'apporter une petite touche après personnelle et une petite touche française aussi. Parce que tu vois, généralement, aux États-Unis, c'est juste très gourmand. Ouais. Mais ça manque de finesse, ça manque de subtilité. Et du coup, bah, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut améliorer la recette pour que, voilà, pour qu'elle corresponde davantage à notre cible également. Et en fait, je suis rentrée de ce voyage à New York et limite, on avait déjà la carte en tête, quoi. Et après, du coup, Claudia a travaillé avec nous en tant que consultante. Donc là, elle nous a vraiment fait les fiches recettes avec le détail, le grammage. Enfin, voilà, c'était vraiment un vrai travail. C'était pas juste un travail entre copines, on va dire. C'était, ouais. Elle a fait un vrai taf de consultante. Elle a vraiment travaillé pour nous sur ce projet. Et on était juste trop contents de la carte. Et à chaque fois qu'on avait un testing, tu sais, il faut juste goûter normalement. Et c'était impossible, on mangeait tout, quoi. Moi, je repartais de là, mais j'avais le ventre explosé, mais c'était trop bien, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Alors, vous avez ouvert votre restaurant, je pense, à la pire période du monde, mais bon, ça, c'était pas prévisible. Mais du coup, comment est-ce que...
Non, tu sais pas, franchement, pour nous, c'était un mal pour un bien.
Ah ouais ?
Pour être honnête avec
toi. Dans quel sens ?
Ouais. Dans le sens où quand tu ouvres un resto, tu es complètement déconnecté de la réalité. Mais quand je te dis déconnecté de la réalité, c'est-à-dire que vraiment, la carte qu'on avait imaginée à la base, on aurait ouvert ça en temps normal, mais on se serait fait défoncer et on aurait pleuré toutes les larmes de notre corps. C'est-à-dire que, en fait, tu t'imagines préparer ces plats-là, mais en fait, quand tu te retrouves dans l'opérationnalité, tu dis non, mais en fait, on a craqué, quoi. Genre, en fait, on a vu, si tu veux, chaque plat demander une mise en place unique. Je sais pas si tu te rends compte, mais en gros, tu te dis, voilà, tu prépares des patates douces, et en fait, les patates douces, tu vas les utiliser que dans un seul plat.
Ouais.
Et en fait, pour chaque plat, tu dois faire une mise en place énorme. Et du coup, en fait, bah voilà, ça faisait un travail monstre en termes de mise en place. Après, il y avait aussi une histoire de gâchis alimentaire, parce que forcément, tu prépares des quantités énormes pour finalement vendre 2-3 plats par-ci par-là. Enfin, on a énormément changé la carte au moment où on a ouvert.
Ouais.
Et du coup, bah, ça nous a permis d'adapter cette carte au fur et à mesure pour qu'elle puisse après être réalisable au moment de l'ouverture. Et puis après, enfin, moi, j'ai jamais fait de restauration de ma vie. C'est-à-dire que là, j'ai pu commencer tout doucement avec la livraison. Ouais. Après, on a fait un peu de à emporter. Après, on a ouvert juste la terrasse. Donc, on a commencé le service à table, mais avec, je sais pas, 5 tables, tu vois. Mais ouais. Du coup, enfin, tu vois, moi, j'étais avec mes petites assiettes et tout. Enfin, c'est pas facile. C'est un vrai métier qui demande vraiment de l'apprentissage. Et j'ai pu également apprendre au fur et à mesure. Enfin, voilà, on a vraiment pu apprendre. Et alors que si on avait ouvert comme on pensait au mois de mars, avec l'attente qu'on a aujourd'hui,
ouais,
ça aurait été terrible. Enfin, tu vois, quand on a ouvert, genre les premiers plats, ça mettait 30 minutes à sortir pour faire un toast et une gaufre. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc voilà, donc finalement, le confinement nous a permis d'apprendre tout doucement pour pouvoir être vraiment opérationnel au moment de l'ouverture. Du coup, je sais pas c'était quand, mais en juin, j'imagine. C'était juin, le déconfinement. Je sais plus.
Ouais. Exactement. Et comment tu te sens quand tu vois une queue énorme dans la rue pour venir dans ton restaurant?
Franchement, humainement, c'est dur. C'est
dur
parce qu'en fait, bah ouais. Enfin, franchement, moi, ça me fait pas plaisir, hein.
Je me suis dit, je sais pas, ça veut dire qu'il y a, tu vois, il y a de l'intérêt.
Ouais, mais enfin, moi, je le vois pas comme ça. Parce que, en fait, tu te dis, comment expliquer ça? C'est-à-dire que, voir attendre quelqu'un une heure et demie, voire 2 heures parfois pour manger finalement un brunch, on n'est pas un étoilé, ça reste de la cuisine simple, en fait. Donc, du coup, tu sais, j'ai envie de leur dire, limite, mais revenez une prochaine fois. Enfin, pourquoi vous attendez? Alors du coup, évidemment, on est très touchés. Moi, franchement, quand je vois des gens qui attendent pendant 2 heures, je suis là, mais merci, quoi. Enfin, c'est incroyable de nous accorder comme ça du temps pour venir tester notre adresse. Donc, ouais, t'as beaucoup de reconnaissance. Mais voilà, je suis quand même un petit peu gênée. Et tu vois, aujourd'hui, c'est plus moi qui gère la file. Parce que ça me brise le cœur à chaque fois de devoir aller dans la file et de leur dire, écoutez, on fait de notre mieux, mais il y a de l'attente, quoi. Et c'est plus tu remontes dans la file et plus tu dis, là, vous avez une heure, là, vous avez une heure et demie. Enfin, c'est dur. Et surtout que, généralement, en fait, c'est même plus de notre sort. Nous, en cuisine, ça sort rapidement. Et parfois, il n'y a plus aucun ticket. et en fait t'attends juste que les personnes terminent de manger. Et là c'est dur parce que tu peux pas leur dire partez, tu vois. Et puis surtout la file, elle part en fait sur le côté. Donc quand t'es dans le resto, t'as aucune idée de la file. Donc du coup, parfois les personnes elles mangent, elles sont là, elles prennent leur temps. Et puis quand elles sortent et qu'elles voient la file, elles sont là, ah mince, mais genre si on avait su, tu vois, à la limite on serait parti un peu plus tôt. Mais donc voilà, c'est toujours compliqué de gérer les personnes sur place et la file. Surtout que tu vois, même si le service se fait rapidement sur place, c'est très difficile de faire oublier à quelqu'un qui l'a attendu une heure et demie. Et généralement, après, ça se fait ressentir dans leurs attentes. Quand tu attends une heure et demie, tu t'attends à une expérience parfaite du début à la fin. Et du coup, tu vois, attendre 15 minutes pour ton plat, ça te paraît hallucinant. Alors qu'en fait, un dimanche midi, attendre 15 minutes, c'est tout à fait correct, quoi. Et en temps normal, ils n'auraient même pas fait attention. Mais donc, voilà, c'est très dur de gérer les attentes des clients, surtout le week-end. Après, la semaine, c'est plus calme, mais le week-end, c'est pas toujours évident.
Ouais, tu vois, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est parce que je suis pas restauratrice. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, je me dis, ouais, c'est sûr que c'est pas hyper positif, en vrai.
Ouais, non, mais bon. Franchement, mais si un jour, on peut avoir un moyen pour gérer cette file, on le fera, tu vois. Mais en fait, il faudrait quelqu'un à temps plein, comme Big Mama, quoi. Quelqu'un qui va être à l'accueil, qui va noter les noms, qui va noter les numéros de téléphone. Mais pour l'instant, c'est trop compliqué pour une entreprise comme nous. On peut pas embaucher quelqu'un qui va juste être là pour appeler les personnes. Et puis surtout que c'est compliqué aussi, parce que généralement, quand t'appelles les personnes, finalement, ils ont été mangés ailleurs. Finalement, ils annulent. Enfin... Tu vois, c'est très dur à gérer, et le plus simple, malheureusement, pour l'instant, c'est de les faire attendre devant le resto. Mais non, ça ne me fait pas plaisir de faire attendre, de faire attendre les personnes devant le resto.
J'ai bien compris pourquoi, du coup. Et comment ça se passe avec le confinement ? Est-ce que vous arrivez à gérer ? Vous en sortez bien avec les livraisons ? Les gens continuent à consommer, finalement, chez les restaurateurs ?
J'ai envie de te dire que le week-end... Voilà, pour être honnête avec toi, les journées du week-end, on fait des belles journées. Donc, ça nous permet de sauver un petit peu la situation actuelle. Mais par contre, la semaine, c'est quand même très calme. Donc, déjà, on a réduit l'équipe de moitié.
Ouais.
Donc, tu vois, on a en salle, finalement, il n'y a plus qu'une personne. On a gardé notre manager. Et en cuisine, on a gardé un commis et un chef. Et après, c'est mon associé et moi qui sommes là quasiment tous les jours pour donner un coup de main. Enfin, la semaine, il n'a pas trop besoin parce que c'est encore assez calme. Mais le week-end, je suis là parce que sinon, c'est un petit peu compliqué tout seul. Mais donc voilà, on a réduit les équipes. Nous, on a arrêté de se rémunérer, du coup.
Ouais.
C'est un peu compliqué. Donc moi, après, j'ai la chance d'avoir mes activités annexes. Ouais. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, je sais que pour mon associé, c'est un peu compliqué parce que il y avait déjà le temps que le projet se lance, il se rémunérait pas. Là, il commençait à se rémunérer et hop, ça recoupe. Donc c'est plus compliqué pour lui, puisque en tant que patron, t'as pas le droit d'avoir le chômage. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et puis après, t'as toutes les charges qu'il y a derrière, les salaires, le loyer. Donc, pour l'instant, si tu veux, l'objectif, c'est même plus de faire du chiffre, c'est juste d'arriver à l'équilibre. Ouais. Voilà, notre objectif, c'est de faire zéro. Donc, c'est un objectif qui est très différent de ce qu'on pouvait avoir auparavant. Mais écoute, déjà, si on arrive à sauver un peu la mise comme ça, c'est déjà bien. Et puis, on a la chance quand même d'avoir Instagram, d'avoir mes comptes derrière pour communiquer tous les jours. Et mine de rien, tu vois, je le vois pendant les services, je fais du CM en direct. Je filme mes plats, je réponds aux personnes en direct. Et ça nous permet quand même d'avoir quelques commandes en plus pendant la journée. Que tu vois, il suffit d'avoir une question. Si je commande, est-ce que je peux prendre un cookie chocolat noir ou chocolat au lait, machin ? Tu réponds oui. Ok, super, je commande. Et tu vois, du coup, c'est l'importance d'être vraiment connecté dans ces moments-là. Et... Donc, c'est cool d'avoir nos comptes, d'avoir mes comptes.
C'est vrai que c'est pas mal.
En ce moment, quoi.
Tu penses que ta visibilité t'a donné un petit coup de pouce pour ce projet-là, pour le faire connaître et...
Clairement, lors du premier confinement, on s'est lancé parce qu'il y avait cette visibilité derrière. On se serait pas lancé... Non, à mon avis, on se serait cassé la gueule si on avait ouvert pendant le premier confinement sans aucune visibilité derrière. clairement. Parce que si tu te dis, on ouvre en takeaway. Enfin, même pas, on a ouvert en livraison. Si t'es pas connue, en fait, comment tu veux remonter dans les algorithmes? Comment tu veux que les personnes te cherchent?
Oui.
Si elles te connaissent pas du tout, c'est quand même très dur. Et d'ailleurs, tu vois, je parlais avec d'autres restaurateurs et ils me disaient, ah, on est sur Uber, on est sur Deliveroo, mais ça marche pas, c'est nul. Mais parce qu'en fait, il manque de visibilité. Et comme tous les restos se sont mis en même temps sur les apps, ben finalement, c'est vachement dur de sortir un peu de son épingle du jeu. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Et donc voilà, pendant le premier confinement et pendant le deuxième, ça nous aide encore, tu vois. Mais ça n'empêche pas que la semaine, ça reste calme. Enfin, voilà, c'est quand même pas la folie, mais ça nous permet de limiter un peu la casse.
Quels sont tes projets pour le futur, alors que ce soit l'année prochaine ou dans 5 ans? Est-ce que tu penses, par exemple, parce que je suis persuadée qu'Immersion a encore de belles années devant lui, ou devant elle, devant lui, un restaurant, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres Immersions dans Paris, ou que du coup tu vas faire d'autres restaurants, tu sais, juste en projet comme ça, sans avoir de vision précise?
Bah, après, oui, effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué de se projeter sur quand, comment, parce que, voilà, ouais. Pour l'instant, déjà, si on peut réouvrir, ce serait bien. Tu vois, là, par exemple, début novembre, on devait passer en 7/7. Donc, ça nous aurait permis de faire plus de chiffres pour après envisager potentiellement d'ouvrir un deuxième ou quoi que ce soit. Donc, là, forcément, on prend encore du recul sur... sur cette vision qu'on peut avoir, mais oui, je pense que si on peut, enfin après on est encore tout nouveau, tu vois, donc j'ai envie de te dire d'abord je me concentre sur celui-là,
oui,
parce
bien
que
sûr.
c'est quand même pas évident, tu vois, d'avoir un restaurant, et surtout quand il a une visibilité sur Instagram comme ça aussi jeune, on nous tape sur les doigts un peu au premier faux pas qu'on peut faire. Donc pour l'instant, on veut être sûr que celui-là il tourne comme on a envie qu'il tourne. Là, on commence vraiment à avoir une équipe au top. Franchement, on est trop contents en cuisine. On a une superbe ambiance en salle aussi. On a réussi à créer un noyau dur. Je pense que c'est vraiment le plus dur dans la restauration. Le plus dur, c'est l'humain. En 6 mois, on a dû avoir... c'est le 4e chef qu'on a. Barista, je te dis pas combien de temps on a mis avant d'en trouver un. Et finalement, regarde, on en trouve un. Et hop, là, on a dû le remettre en chômage partiel parce qu'on peut pas... on fait pas assez de café pour pouvoir réembaucher quelqu'un en ce moment. Mais donc là, on a une équipe qui... On est super contents, donc on aimerait déjà qu'on puisse réouvrir après qu'on passe en 7/7, parce que pareil, c'est des plannings, c'est de l'organisation, donc déjà ça. Et puis après, pourquoi pas faire un deuxième petit Immersion.
Ok, c'est super en tout cas. Et tu vois, c'est intéressant pour moi de discuter avec toi, parce que c'est tellement un domaine que je ne connais pas, que du coup, j'avais pas pensé à toutes ces étapes, au fait d'ouvrir tous les jours de la semaine. Et puis, c'est des petits détails, mais c'est des petites steps que tu veux accomplir finalement.
Bah, en fait, au début, nous, on a commencé en 5/7, parce qu'en fait, t'as pas de rotation d'équipe. Mais dès que tu passes en 7/7, tu peux pas faire travailler ton équipe tous les jours.
Oui, enfin, effectivement, c'est maintenant que je le dis, oui.
mais du coup, c'est tellement dur de trouver du personnel en qui tu peux avoir confiance que du coup, en fait, on a fait vraiment les choses par étapes. Donc déjà, on trouve les personnes en 5/7 et puis après, on peut chercher d'autres personnes pour faire les rotations. Donc voilà, on a mis du temps, mais écoute, je pense qu'on sera prêt quand on pourra réouvrir à passer en 7/7, on aimerait bien. Et c'est vrai que, je me permets d'en parler, mais tu vois, moi, ça fait bientôt, je sais pas, 4 ans que je cours à droite, à gauche. Et c'est vrai que parfois, c'est fatigant quand même, tu vois, d'aller de café en café. C'est un milieu où t'as pas non plus beaucoup de reconnaissance. Tu sais, tu vas dans un café, moi je paye mes plats, je mange froid, je passe du temps à prendre des photos. Enfin, tout ça, ça me. Concrètement, ça rapporte pas d'argent, entre guillemets. Enfin, tu vois, ça reste quand même un boulot passion, même si après, ça fait grossir la communauté et du coup, ça me permet d'avoir d'autres collaborations ou même plus de visibilité pour le resto. Mais du coup, je me dis, si un jour, tu vois, j'en ai marre de ça, je suis contente d'avoir un projet sur lequel je puisse me raccrocher et me dire, peut-être un jour, je ferai... plus d'influence et je me dirais vas-y, je me mets à 100% uniquement dans le resto Et c'est chouette de pouvoir se dire que j'ai un projet concret sur lequel je peux me raccrocher.
Ouais, je comprends totalement. Bah, écoute, merci beaucoup, Laura, pour nous avoir partagé ton histoire. Je trouvais ça très intéressant et très inspirant
avec
aussi.
Avec plaisir.
Comme quoi, il faut savoir suivre tu vois, nos envies du moment et savoir s'écouter.
Ouais, il faut oser. Faut oser, écoute, même si c'est jamais parfait, on s'améliore au fur et à mesure, on s'adapte, on écoute un peu les retours. Tu vois, il y a eu beaucoup de retours sur le resto, tu vois, sur les saveurs, sur les quantités. Et c'est vrai qu'on prend en compte toutes ces remarques pour continuer de nous améliorer au quotidien. Et c'est vrai qu'au final, quand on dit aux clients parfois qu'on n'a que 6 mois, tu sais, ils hallucinent, quoi. Ils font « Ah oui, effectivement, c'est tout jeune, quoi. » Donc tout de suite, tu sens qu'il y a un peu plus de bienveillance et tout. Mais c'est vrai que c'est pas écrit sur notre tête, tu vois, qu'on est ouvert que depuis 6 mois. Donc voilà, il faut... Ça prend le temps que ça prend, mais... Écoute, ça s'améliore de jour en jour, donc c'est le principal.
C'est clair. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite, même si je doute pas qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver. Et puis, j'espère aussi pouvoir goûter un jour, en 2021, immersion.
On y croit. Ouais. Bah, écoute, quand tu viens sur Paris, tu me dis et on organise ça.
Ça marche. Mais merci beaucoup, Laura.
Je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçue.
J'espère que cet épisode, cet échange que j'ai eu avec Laura vous aura montré qu'il faut croire en ses projets, que tout est possible, qu'il faut vous donner les moyens malgré les événements, malgré les imprévus. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus alors que vous pensez que tout se passe bien et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du challenge, on va dire. Donc s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a un projet que vous avez envie de lancer, faites-le. Sautez et le filet apparaîtra. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.